Merci de rester fidèle au programme de Radio Capi. Je vous invite à suivre à présent l'émission de nos membres congolais présentée ce soir par Claude Chianza.
Bonsoir. Tension diplomatique entre la RDC et la Belgique. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce différend et quel avenir pour les relations entre la RDC et la Belgique? C'est le thème que nous abordons ce soir dans Dialogue entre Congolais du mardi 29 avril 2008. En effet, dans une interview accordée jeudi dernier au journal belge Le Soir, le président Joseph Kabila a demandé à la Belgique de se décider quant au type de relations qu'elle souhaite entretenir avec la RDC, soit de relations, soit de très bonnes relations de partenariat dures avec un État souverain et indépendant, soit de relations de maître à esclave, a poursuivi le chef de l'État congolais. Dans cette émission, nous recevons Bob Kabamba, professeur de prévention des conflits à l'Université de Liège en Belgique, qui intervient depuis Bukavu au sud Kivu, Maître Mbouyou, député national PPRD, membre de la majorité au pouvoir, et Jean-Lucien Boussa, député national MLC, vous l'avez compris, les de l'opposition institutionnelle, présente au Parlement. Des réactions de nos auditeurs, nous en avons sélectionné quelques-unes parmi vos nombreuses réactions que nous avons toujours le plaisir de recevoir. Emery Kabougi, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, estime qu'il est vrai qu'il y a encore des problèmes à résoudre, mais l'on doit reconnaître que la dénonciation belge n'est pas pour compatir avec la population congolaise. La motivation est plus liée au contrat chinois qui, en tout état de cause, touche les intérêts occidentaux. Est-ce que la Belgique et les multinationales, poursuit Emery Kabougi, sont prêtes à comprendre que la RDC doit se développer avec ses propres ressources et les acteurs extérieurs de son choix? Zarni, depuis la Suisse, s'interroge sur si ce que dénonce Karel de Gucht au Congo est faux. Est-ce la première fois, se demande Zarni, que la Belgique constate un écart entre ce qu'ils espéraient après s'être investi dans le processus électoral congolais et les réalités sur le terrain après la tenue des élections en RDC? Enfin, Franco Mbonga, d'Itiro en province orientale, demande au gouvernement congolais de combattre plutôt la corruption, l'impunité et la violation des droits de l'homme au lieu de minimiser les propos de la diplomatie belge, conclut-il.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Les progrès sont insuffisants en matière de lutte contre la corruption en RDC, juge la Belgique. Le premier ministre belge Yves Le Terme a résumé le sentiment de son gouvernement le jeudi 24 avril dernier devant la Chambre des députés belges. Les ministres belges en séjour la semaine dernière à Kinshasa ont déclaré prioriser leur action en RDC sur la lutte contre la corruption. Selon Karel de Gucht, cela signifie qu'il faut s'attaquer aux privilèges fabuleux de certains. Dans une interview au journal belge Le Soir, Joseph Kabila estime que c'est le début d'un incident ou une provocation. Notre confrère Georges Samoujova s'y est penché.
Je refuse qu'une sorte de tutelle continue à s'exercer sur nous, déclare Joseph Kabila. Il ajoute que la prochaine fois, il y aura un incident. L'un des points de mésentente, selon Joseph Kabila, c'est la nomination d'un rapporteur sur les droits de l'homme. Réclamée par plusieurs ONG internationales et congolaises, la Belgique insisterait sur ce sujet. Bruxelles, qui estime également que sans avancer dans la lutte contre la corruption, le Congo ne surmontera jamais ses difficultés. C'est la dernière fois que j'ai accepté de recevoir une délégation porteuse d'un tel message, déclare Joseph Kabila. Le président congolais juge le patron de la diplomatie belge d'être arrogant. Il ajoute « Je n'accepterai jamais de leçons de la part de qui que ce soit, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères belge ou chinois. » Alors chinois, le contrat Chine-RDC serait-il au centre des refroidissements entre Bruxelles et Kinshasa? C'est important que ces contrats qui seront finalisés dans les jours à venir soient équilibrés à l'avantage du peuple congolais, a déclaré de son côté hier à Lubumbashi Charles Michel, ministre belge de la coopération. Pour le président congolais, la Belgique doit se décider si elle souhaite entretenir des partenariats adultes avec un État souverain ou des relations de maître à esclave. Mais Joseph Kabila ajoute que la Belgique reste un pays ami et frère. La RDC reste un pays souverain avec lequel la Belgique entend poursuivre son partenariat, déclare de son côté le premier ministre belge Yves Le Terme, estimant que leur relation permet à chacun d'employer la franchise.
Maître Mbouyi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national PPRD, donc membre de la majorité au pouvoir. Pouvons-nous dire s'il y a aujourd'hui tension entre la RDC et la Belgique, ou plutôt, il y a une tension entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et Karel De Gucht, le ministre belge des Affaires étrangères, ce qui n'est du reste pas une première?
Bon, il n'y a pas une question personnelle entre le chef de l'État et M. Karel De Gucht, parce que M. Karel De Gucht est venu dans un cadre tout à fait officiel, envoyé par son gouvernement, donc une mission officielle de la Belgique, qui a été confirmée, y compris dans ce point de vue, par le Premier ministre belge. Et donc, il n'y a pas une question de Joseph Kabila contre Karel De Gucht, c'est pas une affaire pareille. C'est une affaire d'État. Et je dois dire que, bon, enfin, l'attention, l'incident n'a pas eu lieu, a dit le président. On a levé cette question, il y a eu dialogue après. Donc, l'incident n'a pas eu lieu, mais comme l'a dit le chef de l'État, sûrement prochainement, dans les mêmes conditions et circonstances, il pourrait y avoir incident.
Nous avons également Jean-Lucien Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national MLC, donc de l'opposition institutionnelle présente au Parlement. Est-ce que vous partagez le même avis que Maître Mbouyou?
Mais je crois quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des déclarations du ministre belge des Affaires étrangères. Il y a eu une réaction du président de la République. En ce qui nous concerne, ça traduit quand même un petit problème entre les deux gouvernements. Rappelez-vous que la Belgique a toujours été, pendant la transition, même avant, au chevet du régime de Kinshasa. Mais qu'aujourd'hui, ce type de déclaration fuse de part et d'autre, nous relevons pour notre part qu'il y a des contradictions majeures entre des gouvernements qui se sont soutenus, n'est-ce pas? Donc, par rapport à cela, je considère qu'il y a tout de même un problème parce que les chefs de l'État menacent. Mais là-dessus, ils menacent que la fois prochaine, et Maître Mbou l'a dit, si la Belgique s'est comportée de la même manière, il y aurait des réactions de la part, il y aurait un incident diplomatique. Et ça veut dire qu'il y a déjà un incident diplomatique. Simplement, je voudrais ajouter que j'aurais voulu que ça ne soit pas les chefs de l'État qui répondent à un ministre des Affaires étrangères. J'aurais pensé que, par rapport à ce type de situation, que le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo puisse répondre au ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Voilà un peu ce que je peux faire d'entre deux jeux comme observation par rapport à ce qui s'est passé.
Voilà, nous avons également en ligne, à partir de Bukavu, au sud Kivu, Bob Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur de prévention des conflits à l'université de Liège, en Belgique. Vous avez l'avantage de suivre à la fois l'actualité politique congolaise et belge, puisque vous résidez en Belgique. Quelle lecture faites-vous de cette tension entre les deux pays? Confirmée d'ailleurs, oui, comme viennent de le confirmer nos deux invités tout à l'heure.
Je vous remercie d'abord pour l'invitation que vous m'avez faite à participer à cette émission. Et donc, je suis en mission à Bukavu dans le cadre de la conférence de Goma du suivi des résolutions. Donc, par rapport à réponse à votre question sur les tensions entre la Belgique et la RDC, moi, je ne parlerai pas de tensions ni de crise, mais je parlerai que les relations entre les deux pays sont à un tournant. On sait bien que la Belgique est la seule puissance qui se reconnaît comme puissance parce qu'elle est reconnue comme ça par le Congo. Donc il n'y a que le Congo qui fait que la Belgique est une grande puissance au niveau international.
Pour vous, la Belgique n'est pas une puissance au niveau international?
La Belgique n'est pas une puissance au niveau international, mais par le dossier du Congo, la Belgique est une puissance. Parce que tout simplement, au niveau international, la Belgique a son mot à dire. Quand on aborde la question de la Belgique, c'est la Belgique qui a toujours été...
Quand on aborde les questions relatives au Congo, c'est ce que vous voulez dire.
S'il vous plaît.
Quand on aborde sur le plan international les questions relatives au Congo, donc vous dites que la Belgique a son mot à dire.
Tout à fait. La Belgique a toujours son mot à dire parce qu'elle a son expertise, etc. Et de ce point de vue-là, donc, la Belgique a toujours une place privilégiée dans les relations entre le Congo et les relations internationales. Alors ici, on assiste à un tournant puisque le Congo n'a plus comme seul acteur privilégié au niveau international que la Belgique. Par le passé, il y avait des crises, mais la Belgique restait toujours l'acteur privilégié. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, puisqu'il y a d'autres acteurs.
Comme lesquels, par exemple?
Par exemple, comme vous l'avez déjà cité, par exemple la Chine, par exemple le Brésil, par exemple aussi l'Afrique du Sud, dans le domaine de l'énergie. Et on peut parler maintenant ici de l'Inde qui devient aussi un interlocuteur international pour le Congo. C'est-à-dire que lorsque le Congo a des problèmes au niveau international, la Belgique se positionne toujours par rapport au Congo. Maintenant, de plus en plus, quand il y a des enjeux qui concernent le Congo, il y a d'autres acteurs qui se positionnent, comme la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Et donc, la Belgique perd cette place vraiment privilégiée. Et vis-à-vis du Congo, je pense que c'est pour ça que je parle de tournant, que les deux pays doivent redéfinir leurs relations dans un contexte nouveau.
Excusez-moi, professeur, quand vous dites que la Belgique perd de plus en plus sa place privilégiée qu'elle occupait au Congo suite à la multiplicité de partenaires aujourd'hui avec lesquels le Congo collabore, est-ce que c'est cela qui justifie un peu cette tension? Vous ne voulez pas parler de tension ou peut-être cette incompréhension entre les deux pays?
Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce changement normalement qui se passe dans les relations entre le Congo et les autres pays. D'accord? Et donc, la Belgique, normalement, n'a pas encore bien intégré le fait qu'elle n'est plus l'acteur privilégié pour le Congo dans les relations internationales. Malheureusement, c'est ça le dommage. Par ailleurs, il faut aussi se rendre bien compte, quand le ministre des Affaires étrangères tient le discours qu'il tient, parce qu'il espère justement avoir des réponses qui par rapport à la situation du Congo dans un contexte où les relations ont changé. Et cette dimension n'a pas été intégrée, malheureusement.
Merci beaucoup, professeur. Maître Mbouyou, je rappelle que vous êtes député national PPRD, membre de la majorité au pouvoir. Je voudrais d'abord que vous puissiez répondre à Jean-Lucien Boussa, qui est député du MLC, qui disait que se posait la question si c'était au président de la République de répondre au ministre belge des Affaires étrangères ou c'était à notre ministre des Affaires étrangères, Boussa Nyamwisi, de répondre à son homologue.
Non, c'est une préoccupation, je pense, qui est illusoire. Le chef de l'État a reçu le ministre belge des Affaires étrangères, avec lequel il a eu des entretiens. Et à la suite de ces entretiens, interviewé, il a répondu par rapport à ces entretiens. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des rares fois où le chef de l'État, après avoir accordé justement une audience de ce type, réagit clairement en disant ça, je ne suis pas d'accord. C'est en fait une volonté d'affirmer une vérité qui est enfouie, celle de voir des puissances anciennement colonisatrices revenir pour rechercher non seulement un espace, mais également dicter un ordre donné. Pour ma part, je me suis réjoui personnellement que le chef de l'État et briser la glace, les briser de l'œuf, et directement. On a plutôt reproché pendant un certain temps au chef de l'État de ne pas être direct. Mais voilà, une fois il s'est dit, c'est un problème grave de souveraineté, de dignité du peuple congolais, et je crois qu'il ne faut pas le cacher au peuple. Et il a fait lui-même directement, et je crois que c'est ça que le peuple attend, que à un moment donné de son histoire, pour des questions de souveraineté, qu'on ne passe pas par quatre chemins.
Maître Mbouyou, vous êtes de la majorité du pouvoir. Est-ce que vous venez de suivre le professeur Bob Kabamba qui estime que la Belgique n'arrive pas encore à intérioriser le fait qu'il y a de nouvelles puissances dans son ancienne colonie, si on peut parler ainsi. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi à l'origine de cette incompréhension entre les deux pays, comme l'estiment aussi certains auditeurs?
Justement, quand j'ai suivi le professeur Kabamba, j'étais quelque peu intrigué par le fait qu'il raisonnait comme un Belge, ou se situant du côté de la Belgique.
Il va vous répondre.
Oui, parce que si la Belgique n'a pas intériorisé le fait que le Congo est indépendant et qu'il y a de nouveaux partenaires, ça, c'est pas la faute du Congo ni du Congolais. C'est justement la faute de la Belgique de raisonner comme si nous étions encore sa colonie. Alors moi, pour ma part, je dirais que ces nouveaux partenaires sont innombrables. et l'abandon du Congo par la Belgique date de plus de deux décennies. Les Belges nous ont abandonnés, littéralement abandonnés. Le conflit wallon-flamand a abouti à ce que les Flamands ont dit carrément qu'il ne fallait plus du tout mettre pied au Congo. Mobutu a-t-il été pour quelque chose ou non? C'est une histoire courante. Tout le monde sait tous les bruits qu'il y a eu aussi entre Mobutu et les Belges pour des raisons valables et non valables. Mais il est un fait que la Belgique s'était désengagée de la vie du Congo et c'est seulement avec les dernières années, je dirais même les quatre dernières années, que la Belgique revient.
Je vais être plus direct avec vous, Maître Mouy, puisque vous êtes de la majorité présidentielle, si on peut parler ainsi. Il y a Emery Kabougi d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un auditeur qui réagit en disant que la motivation de la réaction de Karel De Gucht ou de la Belgique est plus liée au contrat chinois qui, en tout état de cause, touche les intérêts occidentaux. Est-ce qu'on peut dire que le contrat signé entre la RDC et les Chinois peut être à l'origine de ce conflit apparent ou cette tension, cette incompréhension, appelons-le comme vous voulez, entre la Belgique et la RDC?
Le chef de l'État dans son
interview. Les auditeurs en parlent.
Oui, le chef de l'État dans son interview est revenu sur cette question. Et de manière assez claire, il a montré que la Belgique n'était pas contente de ces contrats, alors que bien d'autres pays, y compris les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire, ont reçu explication et ont compris. La Grande-Bretagne encore plus récemment. Alors, si la Belgique n'arrive pas à dépasser ce cap, il y a un guise aux roches. Et je voudrais vous dire, étant élu de la ville de Lubumbashi, étant moi-même de la province du Katanga, que lors des dernières vacances parlementaires, je me suis intéressé à la question des contrats miniers et comment ils se présentent. En résumé, je peux vous dire qu'après contrôle, 80% des contrats miniers conclus en République démocratique du Congo sont en faveur des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales dans l'affaire minière ont eu 80% de contrats. Alors, quand on crie sur la Chine, qui se situe uniquement dans les 20%, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces contrats en question ont pour but de réaliser une sorte de compensation entre la réalisation des travaux et l'exploitation minière au prix du marché courant, c'est-à-dire le prix fixé par l'Occident. Il devient dès lors incompréhensible. Pourquoi la Belgique doit s'opposer à une telle aubaine? Mais il est clair aussi qu'il y a
des possibilités. Mais vous pensez que le fait que la Belgique ne se retrouve pas dans les contrats chinois peut-être peut expliquer cette tension entre les deux pays?
Pas qu'elle ne se retrouve pas, mais si nous voulons être clairs de toi à moi, ce n'est pas parce que la République démocratique du Congo décide d'annuler quelques contrats détenus par des Belges au Congo que toute la Belgique doit se mettre en émoi, alors que ces contrats sont faits en violation. Violent manifestement les lois congolaises, notamment les termes n'ont pas été respectés pour commencer les
conflits. Je voudrais être clair, Maître Mbouillet, que vous pensez que les contrats chinois peuvent être à l'origine de cette incompréhension ou cette tension entre les deux pays? En 30 secondes, s'il vous plaît.
Écoute, c'est évident. C'est évident que la Belgique s'est énervée de voir que la Chine venait pour conclure ces contrats.
Merci. Jean-Lucien Boussa, est-ce que vous partagez la même opinion que Maître
Raquel
Mbouyou, que les contrats signés entre la Chine et la République démocratique du Congo, les contrats miniers, peuvent être à l'origine de l'incompréhension de la tension entre les deux pays?
Non, mais je suis plutôt heureux de constater que Maître Mbouyou a reconnu qu'il y a un vrai problème entre le gouvernement belge et le gouvernement de la République démocratique du Congo.
C'est-à-dire?
Il indique que c'est probablement les contrats miniers, c'est certainement les contrats avec la Chine, etc. Mais le ministre belge des Affaires étrangères pose un problème de fond. La corruption, le régime des privilèges, les violations des droits de l'homme. Mais je crois que c'est des problèmes réels. Au-delà de la forme, la corruption est là, elle est présente. On la dénonce chaque matin. Mais elle est là. Est-ce que Karel De Gucht, en parlant de la corruption, a-t-il menti? Moi, je dis, il n'a pas menti. Le pays est gangréné par la corruption. Et je vous rappelle qu'en 2007, mars 2007, le président de mon parti, Jean-Pierre Bemba, avait dénoncé haut et fort la corruption dans ce pays, la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, ce discours est rattrapé, ou ce même discours est relayé par d'autres acteurs, qui pourtant étaient de mèche avec le pouvoir en place, ou sont de mèche avec le pouvoir en place. la logique de la Belgique d'intervenir au Congo. Mais c'est la logique qui a prévalu lors de tout le processus. Rappelez-vous qu'en 2001, le Congo renoue ses relations diplomatiques avec les pays occidentaux. Et c'est la Belgique qui joue le rôle moteur. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la Belgique n'a pas joué un rôle quelconque.
Donc, Jean-Lucien Boussard, vous êtes d'accord avec Franco, un auditeur, Franco Mbonga, d'ici en province orientale, qui demande au gouvernement congolais de combattre plutôt la corruption, l'impunité et la violation des droits de l'homme, au lieu de minimiser le propos de la diplomatie belge.
Non, non, moi je dis ceci. Le propos de la diplomatie belge et le propos du chef de l'État traduit un malaise dans les relations entre la Belgique, le gouvernement belge et le gouvernement congolais. Mais les problèmes qui ont été soulevés par le ministre belge des Affaires étrangères, confirmés par le premier ministre belge, sont-ils des problèmes réels, oui ou non? Lorsqu'on nous parle de la théorie de la dépendance de ces pays qui veulent nous coloniser, que nous sommes encore esclaves, mais il y a un vrai problème de responsabilité dans ce pays.
Merci.
Qu'est-ce que nous faisons dans ce pays pour que nous nous assumions?
Merci beaucoup Jean-Lucien Boussa. Je rappelle que vous êtes député national MLC, donc de l'opposition. Déo, nous venons de recevoir une réaction de Likasi, de Déo de Likasi, qui rejette l'argument du professeur Bob Kabamba, qui affirme, selon Déo de Likasi, que la Belgique entretient des relations privilégiées avec la RDC, dans la mesure où la Belgique n'a jamais soutenu, selon Déo de Likasi, la Belgique n'a jamais soutenu la RDC dans les différents problèmes, notamment la guerre d'agression, les problèmes économiques, etc. Professeur, est-ce que vous pouvez répondre à Déo de Likasi au Katanga?
Je pense qu'il y a une méconnaissance quand même des choses. Et je vais en profiter aussi pour répondre à toute une série de questions. J'avais très bien dit tout à l'heure que par rapport à ce qui arrive, c'est aussi parce que la Belgique n'avait pas encore bien intégré la nouvelle zone politique congolaise. De manière très claire, sans ambiguïté. Ben, je réagis en tant que Belge. Oui, je suis Belge. Je ne veux pas nier que je suis de nationalité.
Mais d'origine congolaise. Hein.
D'origine congolaise, hein. D'origine congolaise, bien entendu. Oui. Alors, sur la question de l'abandon de la RDC, ce n'est pas vrai parce que tout ça. Simplement, il faut bien se rendre compte que depuis le début de la guerre, en 1996-1998, et à partir de 1999, que la Belgique qui a quand même permis pour qu'on puisse remettre au niveau international le dossier Congo, parce que depuis tout un temps, le Congo, personne ne voulait plus intervenir dans ce pays, et c'est la Belgique qui a quand même permis de pouvoir remettre au niveau du Conseil de sécurité que l'on puisse avoir la MONUC, que l'on puisse avoir l'intervention dans toute une série de domaines, ça il faut quand même rappeler à plusieurs reprises, et que ce n'est pas il y a 4 ans seulement que la Belgique s'est intéressée au Congo. Quand on dit il y a 4 ans, ça veut dire qu'on est en 2004. Et donc la transition commence en 2003, et avant la transition, avec les interventions au niveau du Conseil de sécurité, et donc il y a eu quand même tout ça que la Belgique a fait et a apporté le dossier du Congo, et je vous le répète de nouveau, que la Belgique est une puissance par le simple fait de s'occuper du dossier congolais. Et donc il n'y a pas eu d'abandon de la Belgique dans ce sens-là, parce que ça sert aussi les intérêts belges.
Merci.
Au niveau international. Alors sur la question de que ce n'est pas vrai que la Belgique n'a jamais soutenu le Congo, donc j'y ai répondu. Et alors sur la question aussi des contrats miniers par rapport à la Chine, ben, je ne pense pas que ça soit la cause de tournant auquel on a très assisté. C'est que de manière générale, quand on voit effectivement que tout le processus électoral, comment il a été porté, comment il a été défendu au niveau international, comment effectivement tout le financement du milliard de dollars, parce que je vous rappelle quand même que les élections ont coûté 600 millions de dollars, plus la sécurisation, et donc on arrive plus ou moins à 1 milliard de dollars qui a été investi pour qu'il puisse y avoir des élections dans ce pays. Et dans ce montant-là, il y a quand même des interventions assez importantes de la part de la Belgique et d'autres pays occidentaux.
Merci.
Et je répète de nouveau que lorsque l'on est dans un tel contexte, et il y a des élections, le contexte politique congolais change, les anciens acteurs continuent de réagir de la même façon qu'ils réagissaient avant.
Merci beaucoup,
alors,
professeur. Vous l'avez déjà dit.
Il faut intégrer.
Merci beaucoup. Maître Mounou, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes député national PPRD, membre de la majorité, donc au pouvoir. Est-ce le fond des questions soulevées par Karel de Gucht qui pose problème, ou c'est plutôt la forme ou la procédure qu'il a utilisée pour soulever les questions posées, par exemple la corruption, les avantages fabuleux de certains membres du pouvoir, est-ce que c'est l'impunité, tout ça, est-ce que c'est ce qui pose problème, ou c'est la manière de le dire?
Oui, merci, cher ami. C'est en fait la manière de le dire.
Les réalités soulevées comme la corruption, les avantages fabuleux de certains dirigeants sont vrais.
Mais lisez l'interview du chef de l'État. Il est revenu sur toutes ces questions. Il a abordé la question de la corruption, par exemple. Il dit, je ne nie pas que dans notre pays, il y a la corruption. Mais qui doit sanctionner, qui doit réprimer? Mais c'est la justice. Le principe est de la séparation de pouvoir et évidemment de la collaboration des pouvoirs. Alors, c'est la justice. Il n'appartient pas au chef de l'État d'aller ramasser les gens qu'on dit corrompus ou corrupteurs et de les sanctionner. Et il est revenu sur ça. C'est une marche. Et nous y allons étape par étape. Et on ne peut pas dire non plus qu'il y a un seul pays au monde qui a vaincu la corruption. Il n'y en a pas. Quand nous regardons le bilan annuel des sommes de corruption, sur 100% d'argent de corruption qui circule dans le monde, 80% c'est dans les pays du Nord et 20% dans les pays du Sud. Donc on ne peut pas dire à un président, voilà, tu ne jugules pas suffisamment la corruption, et parce que, il y travaille avec les institutions. Mais les privilèges, le peuple, quand il parle des privilèges ici au Congo, voit notamment nous les députés, avec nos salaires de
4 000 dollars. Vous n'êtes pas le seul membre des institutions.
Nos salaires de 4 000 dollars par mois, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, nous recevons cela. Et nos véhicules et tout ça. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les privilèges sont le fait du pouvoir. Les privilèges qui sont octroyés aux dirigeants politiques aujourd'hui bénéficient tant aux opposants.
Donc vous acceptez quand même les remarques de Carole Desgouttes qui ont dit que c'est des privilèges fabuleux.
Le chef de l'État n'a pas éludé la question. Il a dit clairement il y a des problèmes et nous sommes en tant que gouvernement employé à les résoudre.
Merci beaucoup, maître.
Il y a la question de droit de l'homme.
Rapidement, s'il vous plaît, on doit passer à la deuxième partie.
Oui, la question du rapporteur spécial. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congo n'est pas gouverné et qu'il faut le mettre sous la tutelle des Nations Unies? Pas du tout. Il y a un gouvernement issu des élections qui est en train de travailler, qui a payé une année, il faut lui donner la possibilité de travailler.
Merci beaucoup. Jean-Lucien Bousset, est-ce que vous pouvez réagir par rapport aux propos de
l'Assemblée? J'espère que vous allez me donner le temps de façon
équilibrée. Allez-y.
Non, je veux simplement dire que aussi
c'est le fond qui était bon ou c'est peut-être
la procédure. Non, mais moi j'ai déjà dit que le fond est bon.
Mais s'il aurait
j'ai dit aussi que la forme.
Oui, est-ce qu'il est permis à un ministre des Affaires étrangères?
Oui, je parle.
Allez-y.
Enfin, j'ai dit le fond, la corruption, les régimes de privilèges, et je reviens là-dessus, sont vrais. Le droit de l'homme, c'est une réalité aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes à Makala qui n'ont pas été jugées. Ils sont emprisonnés depuis. Ils meurent tous les jours, ces gens-là. Maintenant, lutte contre la corruption, la responsabilité, mais elle est aussi celle du chef de l'État. Ce n'est pas que la responsabilité de la justice.
Mais aussi de vous,
s'il vous plaît, laissez-moi parler.
Allez-y.
Quand maître vous parle, je laisse parler.
Allez-y.
Ok. Donc, l'impulsion doit être donnée par le chef de l'État. Il doit manifester une volonté, une détermination à mettre fin à la corruption. Dans le pays, tous les pays du monde, et surtout dans le pays comme le nôtre, c'est la volonté du président de la République qui indique la voie à suivre. C'est la vision du chef de l'État qui est traduite en action opérationnelle. Lorsque cette volonté n'y est pas, surtout qu'on s'est complet à ne pas sanctionner ceux qui sont en plein dans la corruption, à partir de ce moment, il se pose des problèmes. N'est-ce pas? Donc, je voulais simplement dire que la lutte contre la corruption doit être menée de façon acharnée. C'est vrai qu'on ne va pas faire disparaître la corruption. On va la minimiser. Mais il faut faire quelque chose. Les régimes de privilèges. Mais il est là, les régimes de privilèges. Il ne faut pas généraliser en parlant des députés nationaux et sénateurs. Pas du tout. Les privilèges, c'est ceux qui sont dans le vrai pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de poste dans une quelconque institution, mais qui jouent des rôles majeurs au sein des institutions politiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le contrat chinois, il n'est pas négocié par les gouvernements directement. Il est négocié par certains conseillers du chef de l'État. Voilà où il y a une dérive. Donc les privilèges existaient
bel et bien. Au Parlement, vous n'avez pas encore
été. Non. Les privilèges existaient bel et bien. Et ce régime des privilèges doit être estompé. C'est clair. Donc je pense qu'ici, il est question par rapport à la forme. Mais la forme obéit à la logique qui a prévalu dans le soutien de la Belgique au gouvernement actuel. Le gouvernement de Belgique a soutenu depuis 2001 le président Kabila et son groupe. Eh bien la logique voudrait quoi? Ben, à partir du moment où nous vous avons soutenu, mais vous devez nous rendre compte. Maintenant que la Belgique se rend compte que la personne qu'ils ont soutenue ne rend plus compte comme il se devait, il y a énervement. Il y a des problèmes. Donc, et puis je voudrais répondre au professeur qui a dit tout à l'heure, c'est un tournant. La Belgique n'a pas encore compris que le Congo est dans un tournant. Quel tournant? Est-ce qu'il y a une vision qui a changé? Est-ce qu'il y a une manière de gouverner qui a changé? On est resté avec les mêmes habitudes, avec la mauvaise habitude de gestion, la mauvaise gouvernance, les tournants par rapport à la communauté internationale. Mais le Congo a toujours été, sauf à l'époque où il y avait rupture des relations avec tous les partenaires, en phase avec beaucoup de pays du monde. Les États-Unis ont soutenu ce Congo. La Grande-Bretagne soutenait ces pays, la France aussi et la Belgique. Donc la Chine n'est pas une particularité.
Je rappelle à nos auditeurs que nous avons tenté d'avoir un représentant de la Belgique, son ambassadeur, mais cela n'a pas été possible. Quel est l'avenir pour les relations entre la RDC et la Belgique? C'est la seconde partie de cette émission. Vous pouvez y intervenir en nous envoyant directement vos réactions par la procédure suivante.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'avenir des relations entre la Belgique et la RDC dépend de ce que la RDC veut, soutient le professeur Biyoya qui enseigne les relations internationales, notamment à l'université de Lubumbashi. Selon lui, les deux gouvernements doivent se mettre d'accord sur les pratiques de communication diplomatique pour éviter ce genre d'incident. Le professeur Philippe Biyoya a été joint par notre consoeur Kélyne Kouté.
On doit éviter de se paranoïaque. Je crois que l'avenir dépend de ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons que nos rapports avec la Belgique devienne, en fait, ce qui déterminera l'avenir des rapports avec la Belgique. Le Congo ne peut pas vivre sans le monde. Et je pense, personnellement, que la porte d'entrée du Congo au monde, ça aurait été la Belgique par le passé. Et je crois que Bruxelles est devenue la capitale, non seulement de l'Europe, mais du monde. La Belgique demeure incontournable, quel que soit, en fait, les caprices de ce gouvernement. Je ne voudrais pas que tout que l'on fasse souvent allusion à l'histoire, parce qu'on semble prendre l'histoire des tumultes, des orages, un peu comme ça à Bruxelles de tout le temps, comme en fait la mesure de l'avenir. Et c'est à nous, en fait, à prendre le taureau par les cornes et à imposer un style que certainement la Belgique finira par accepter. S'il n'accepte pas, alors là, nous pourrons dire à l'humanité tout entière que nous avons voulu construire une relation avec les Belges et ils n'ont pas voulu, mais nous restons en fait ouverts à l'humanité tout entière.
Votre réaction, professeur Kabamba? Allô, professeur Kabamba? Voilà, nous n'avons plus le professeur Kabamba, nous allons tenter de le recontacter pour qu'il participe à cette émission. Excusez-moi, Maître Mbouyou, comment vous réagissez à ce qu'il faut, comme l'a dit le professeur Philippe Biyoya, que les deux gouvernements puissent établir certaines pratiques de communication diplomatique pour éviter ce genre d'incident, et que la Belgique, le Congo ne peut pas se passer aussi de la Belgique, en raison de la place qu'elle occupe, notamment dans l'Union européenne?
Oui, mais voilà aussi des postulats qui nous font écarter du langage. Après là, il faut rejoindre le prof Kabamba. Justement, il n'y a que nous, finalement, les Congolais, qui pensons que la Belgique est incontournable. Mais aujourd'hui, il y a une diversification dans les relations internationales qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que tel pays est incontournable pour nous. Et justement, le chef de l'État a posé le problème fondamental de savoir que veut la Belgique pour le Congo. Nous, ce que nous voulons, et il l'a dit clairement, c'est que nous soyons en bon terme avec la Belgique. Que la Belgique soit aux côtés du Congo. Et que la Belgique soit acteur dans le Congo. Et on peut le voir, elle essaye de l'être. Elle essaye de l'être. Mais la question fondamentale de savoir quelle est la politique de la Belgique, que poursuit la Belgique au Congo. La question n'est pas de savoir ce que veut le Congo pour la Belgique. Non, la Belgique doit décider pour elle-même. Et ça qui n'est pas clair, vous accompagne dans un processus, le lendemain, et s'oppose à vous. Prenez le cas de fameuse révisitation de contrats miniers. La Belgique vient, ces sociétés ont des contrats, une fois qu'on a signé le contrat, on retrouve les Belges dans les grains pour réclamer, il faut revisiter le contrat.
Merci, Maître Mbouyou. On me signale que le professeur Bob Kabamba est en ligne. Professeur, donc nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission avec comme question principale, quel avenir pour les relations entre la RDC et la Belgique? Quelle lecture faites-vous de l'avenir des relations entre ces deux pays?
Je pense que les relations entre les deux pays vont changer et que maintenant on va assister à des relations de partenaires, de véritables partenaires, donc il n'y aura plus de différences, il n'y aura plus de relations privilégiées. Et on va observer un peu ce qui s'est passé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et c'est la même chose que l'on va vivre avec le Congo et la Belgique. C'est-à-dire que l'on va avoir des partenariats franches, des relations franches, mais qui ne seront plus des relations privilégiées, pays colonisateurs, pays colonisés. Et c'est-à-dire aussi que la Belgique va redéfinir ses relations, son partenariat, et je pense qu'elle va axer plus au niveau des régions, c'est-à-dire la région wallonne et la région flamande, qui vont plus être des actrices pour les nouvelles relations avec les RDC, et aussi tout ce que l'on pourra avoir comme coopération décentralisée, c'est-à-dire les communes qui font des jumelages, c'est-à-dire les institutions qui font des jumelages, etc., etc. Je pense qu'on va aller plus dans ce sens-là, et qui va être, je pense, ça sera aussi bénéfique pour le Congo que pour la Belgique, cette nouvelle forme de relation. La Belgique n'a plus les moyens de pouvoir intervenir dans le secteur minier, elle n'a plus les moyens de pouvoir investir dans le secteur pétrolier, par exemple, elle n'a plus les moyens de pouvoir investir, par exemple, dans le secteur électrique, et donc elle doit agir uniquement par d'autres acteurs. Mais aussi, elle pourra toujours continuer à jouer vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'elle est membre.
Oui, professeur, s'il vous plaît.
Parmi 25.
Professeur, s'il vous plaît. Professeur Kabamba, s'il vous plaît. Une question. Oui. Comment expliquer alors les relations dans de scie entre la RDC et la Belgique? C'est un peu, peut-être l'état, j'omets de citer certains pays africains. Il y a par exemple la réaction de Polydor Tanguelu de Kinshasa qui demande à la Belgique de ne pas transférer en RDC l'antagonisme entre Flamands et Wallons, car lorsque, d'après Polydor Tanguelu, lorsque Karel de Gucht vient au Congo, il critique le pouvoir, mais une fois au Congo, lui, Michel, le père de l'actuel ministre belge de la coopération, fait tout le contraire et félicite le président Kabila et son gouvernement.
Oui, la réponse elle est assez simple. C'est qu'en Belgique, vous avez deux opinions publiques. Vous avez une opinion publique flamande et une opinion publique francophone. La perception de l'opinion publique flamande vis-à-vis du Congo est souvent exprimée par Karel de Gucht. Et l'opinion publique francophone est souvent exprimée par les politiques francophones de Belgique.
Est-ce que les Flamands, professeur Bob Kabamba, est-ce que les Flamands et les francophones parlent le même langage en ce qui concerne le Congo?
Ben c'est ça que je vous dis, qu'ils ne parlent pas le même langage quand ils parlent à tout le contraire le Congo.
Merci beaucoup.
C'est ça qui fait les tensions qu'il y a et l'incompréhension qu'il y a des fois au niveau de la lecture que l'on pourrait avoir de la Belgique et du Congo.
Merci beaucoup, professeur Jean-Lucien Boussa. Comment vous voyez l'avenir entre les deux pays?
Donc, tout à l'heure, une question a été posée. Qu'est-ce que la Belgique veut au Congo? Moi, je dirais qu'il faut poser la question autrement. Nous n'avons pas besoin de ce que la Belgique veut au Congo. Nous n'avons besoin de ce que nous voulons pour transformer notre société et pour nous faire respecter à travers le monde. Mais il faut commencer par là. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo a des défis à relever. Les défis de la transformation, de la bonne gouvernance de son pays et du développement de ses pays. Dans l'intérêt des Congolais. C'est notre défi. À partir du moment où nous nous assumons pleinement, à la fois politiquement, économiquement, et que nos populations trouvent des comptes dans la gestion de la République, à partir de ce moment, la dépendance économique et même financière vis-à-vis de l'extérieur va diminuer et la dépendance politique va plus ou moins diminuer.
Vous pensez que la RDC dépend encore politiquement?
Ah ben oui, mais on a vu ça pendant toute la transition. On a vu pendant tout le processus électoral, à la fois financièrement et politiquement. Et le point de vue de l'Occident a été considéré comme la parole d'évangile ici, n'est-ce pas? Donc, je pense que le défi, c'est la transformation du Congo. Le défi, c'est un leadership national capable de transformer la République démocratique du Congo pour le rendre attractif à travers le monde. Et ainsi, la République démocratique du Congo va devenir, dans un contexte de mondialisation, un partenaire qui compte. Il y a 30 ans, la Chine n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Mais la Chine s'est battue à l'intérieur de la Chine pour transformer son pays. Donc, je vais simplement terminer en disant, il s'agit de la volonté, il faut que la volonté de notre pays soit clairement visible sur le plan opérationnel pour transformer l'avenir de nos relations
avec la Belgique dépendra de la capacité de notre pays et de nos acteurs à pouvoir transformer ces pays.
Merci beaucoup, Guy-Roger Nyampala. Bonsoir.
Bonsoir, Claude Tienza.
Les réactions de nos auditeurs.
Je vous en prie. Kalonji Benjamin de Nairobi au Kenya se dit triste de la réaction du chef de l'État. Il pense que c'était plutôt le ministre des Affaires étrangères qui devait réagir. Selon lui, les propos du ministre belge Karel De Gucht sont fondés car le peuple congolais souffre. Joseph Aswende Dumbanaka, dans la province de l'Équateur, pense qu'il serait souhaitable à notre gouvernement de chercher à corriger ce dont la Belgique lui reproche, au lieu de provoquer des tensions qui peuvent l'enfoncer dans un gouffre. Enfin, Rex Bombenga de Kinshasa appuie la réaction du chef de l'État et fustige les réactions de l'opposition, notamment celle du député national Jean-Lucien Boussa. Selon lui, le chef de l'État ne rejette pas les problèmes de fond, car le pays est en marche.
Merci beaucoup, Guy-Roger Nyampala. Je commence par vous, excusez-moi, Maître Mbouyou. Je rappelle que vous êtes député national, membre de l'ANP, la majorité au pouvoir. Joseph Aswende Dumbanaka, dans la province de l'Équateur, pense qu'il serait souhaitable à notre gouvernement de chercher à corriger ce dont la Belgique lui reproche, au lieu de provoquer des tensions qui peuvent l'enfoncer dans un gouffre.
Bon, ce n'est pas notre pays qui provoque des tensions. Quelquefois, je suis un peu désabusé par le niveau de compréhension des problèmes de nos jeunes gens. L'incident ici a été provoqué par le ministre belge des Affaires étrangères. Ce n'est pas nous qui avons provoqué l'incident, il faut le savoir. Ensuite, les problèmes de fond, comme l'a dit notre intervenant, ont été abordés par le chef de l'État sans ménagement. Et ces problèmes sont ceux qui justifient l'action du gouvernement. L'action, le gouvernement se bat pour ça. Le Parlement lui-même se bat pour cela. Et c'est pour ça que nous sommes en réforme des lois. Donc, il ne faut pas venir dire des choses à des gens comme s'ils ne faisaient rien, comme s'ils tournaient les pouces. La vitesse peut être différente entre ce que fait le gouvernement belge ou les institutions belges et ceux congolaises, mais il ne faut pas penser que au Congo, le gouvernement ne travaille pas, que le Parlement ne travaille pas, que le judiciaire ne travaille pas. Non, c'est une mauvaise perception. Mais je voulais aussi dire...
Rapidement, en 30 secondes.
Oui, en 30 secondes, que mon collègue, le député national Jean-Lucien, quand il pense que nous dépendons encore politiquement de la Belgique, il rentre justement dans les schémas de ceux qui croient que la Belgique, c'est ça, le salut, le pays incontournable au monde.
Merci beaucoup, Maître Mbouyou. Je me tourne vers vous, Jean-Lucien Boutin. Je rappelle que vous êtes député national MLC, donc de l'opposition. Que répondez-vous à Rex Bombenga de Kinshasa qui appuie la réaction du chef de l'État et fustige les réactions de l'opposition, notamment votre réaction? Selon lui, le chef de l'État ne rejette pas le problème de fond.
Moi, je voudrais d'abord rassurer mon collègue. Je dis simplement que à partir du moment où on a été dans une logique de dépendance vis-à-vis de l'extérieur sur le plan politique, ben la logique se poursuit aujourd'hui, malheureusement. Et depuis 2001, nous sommes dans cette logique-là. Le compatriote qui a réagi de cette manière, j'espère que lui trouve ses réponses, des réponses précises aux problèmes qui se posent à lui tous les jours. Il sait très bien que dans ce pays, nous dénonçons tous les jours la mauvaise gouvernance dans ce pays. Il sait très bien que dans ce pays, nous dénonçons tous les jours les violations des droits de l'homme. Je sais que si je me vais avec lui à la prison de Makala, on va rencontrer des gens qui n'ont jamais été jugés, qui sont là depuis une année, et même plus. Il sait très bien que les régimes de privilèges existent. Parce qu'on appartient à telle famille, on a droit à tel privilège. À la fois sur le plan politique, sur le plan économique. Aujourd'hui, mais lorsque vous examinez les marchés aujourd'hui, les passations des marchés publics, qu'est-ce que vous allez raconter derrière ces marchés publics? Mais c'est des acteurs qui sont très proches des acteurs gouvernementaux. Et puis le grand problème par rapport à la corruption,
j'ai dit, vous étiez au pouvoir, vous ne sentez pas les cas?
Non, mais enfin, je ne suis pas au pouvoir, donc c'est clair. Je ne suis pas au pouvoir, donc on ne va pas réfléchir sur les hypothèses irréalistes. Je suis au pouvoir, nous combattrons cela.
Merci.
Je voudrais ajouter une seconde, tout simplement. Le grand problème par rapport à notre corruption, c'est les acteurs étatiques qui sont en plein dans la corruption et qui sont censés combattre la corruption. Ils sont dans la corruption. Et c'est là le grand problème.
Merci. Professeur Bob Kabamba, donc vous êtes belge d'origine congolaise. J'ai ici devant moi une dépêche de l'AFP, de l'agence France Presse, qui dit que jeudi dernier, le journal, le plus gros tirage de la presse belge, un journal flamand, Het Laatste Nieuws, avait titré en disant le Congo, y a-t-il quelque chose à attendre du Congo chinois? Est-ce qu'aujourd'hui en Belgique, on considère comme le Congo comme étant devenu le Congo chinois?
Vous avez bien mis le doigt là où il fallait. Vous avez parlé bien du gros tirage de la région flamande. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux opinions. Quand vous lisez le gros tirage francophone, c'est différent, on ne dit pas la même chose. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux lectures qu'il faut avoir chaque fois. Quand on parle du côté flamand, du vis-à-vis du Congo, c'est différent. Quand vous parlez du vis-à-vis des francophones du Congo, c'est aussi différent. Alors je voudrais revenir simplement sur la question de fond par rapport à l'expression de notre ministre Karel De Gucht.
Nous sommes
fait Massissi.
Nous sommes, malheureusement, professeur, nous sommes à la fin de cette émission, donc merci à nos invités, à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, notamment Kelly Koutenot, consoeur, qui a préparé pour vous cette émission et qui l'a aussi réalisée. Merci à Eric et Sidia Kala, qui l'a mise en onde. Le prochain rendez-vous, c'est demain mercredi à 19h, tard, heure de Kinshasa. Au revoir et bonne soirée chez vous.